aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du Studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, durcissement de la grève générale au Tchad, les confédérations syndicales privées rejoignent le mouvement. La terreur Boko Haram continue, plus de 8 morts au Nigeria et dans l'extrême nord du Cameroun. L'ANC veut trancher la question du départ anticipé de Jacob Zuma qui lui refuse de partir. Et puis en Syrie, 23 civils dont 4 enfants ont été tués dans des raids aériens. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Week-end meurtrier dans l'extrême nord du Cameroun et au Nigeria. Des attaques attribuées à Boko Haram ont fait au moins 8 morts dans les deux pays. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
Au Cameroun, dans la région de l'extrême nord, 6 personnes ont été tuées par des membres présumés du groupe Boko Haram dans la nuit de dimanche à lundi, selon le correspondant de VOA Africa, Yaoundé. Le bilan fait aussi état d'une centaine de maisons incendiées. Les assaillants ont également brûlé une église et 4 boutiques. La région de l'extrême nord du Cameroun est frontalière du Nigeria, où le groupe islamiste a aussi mené une attaque dans le nord-est, faisant 2 morts. L'attaque a été menée hier soir dans le village d'Alaou Kofa, près de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno. Selon un habitant, les 2 victimes ont été brûlées vives et le village a été entièrement incendié. Il a ajouté que les membres de Boko Haram étaient venus pour voler du bétail, mais qu'ils ont été contraints d'abandonner les troupeaux à l'arrivée des soldats nigérians.
Au Tchad, la grève s'est durcie. Le personnel des banques privées, des opérateurs de téléphonie mobile et autres secteurs ont cessé le travail aujourd'hui en solidarité avec les travailleurs du public qui sont, eux, en grève générale illimitée depuis une semaine. Ce mouvement de protestation dénonce une coupe dans les primes et indemnités des salaires des fonctionnaires depuis ce mois de janvier, conséquence de la loi de finances 2018. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Au Gabon, un appel à la grève des taxis lancé contre la hausse du prix du carburant et les tracasseries de la police qui rackettent les chauffeurs de taxi a été moyennement suivi aujourd'hui à Libreville. Au Niger, 10 militants du front de l'opposition ont été arrêtés cette nuit à Niamey alors qu'ils prenaient part à un sit-in de protestation contre la présence des bases militaires étrangères, notamment françaises et américaines, sur le sol nigérien et contre les nouvelles mesures fiscales dans le budget 2018. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Selon la présidente du Front de l'opposition indépendante, Madame Bayar Mariama Gamache, les 10 militants sont actuellement auditionnés au niveau de la police judiciaire pour tapage nocturne. Ce nouveau front a quitté le regroupement des partis politiques de l'opposition il y a quelques mois pour notamment son laxisme, a en effet appelé à un sit-in dimanche matin à la place Toumou. Du fait de la forte mobilisation, les participants ont décidé de continuer à rester jusqu'à tard dans la nuit. Et c'est là que sont intervenus les arrestations, dont le porte-parole du front Alassane Intikar qui déclarait dans la matinée ceci.
Et premièrement, c'est des bases militaires. Par comment ces gens-là qui ont des drones, qui ont des matériels sophistiqués, qui ont des avions et les djihadistes viennent attaquer nos militaires, tuer nos militaires et ils ne voient rien. On est venu ici pour leur dire de dégager.
L'autre mobile de la manifestation, c'est la protestation contre les mesures fiscales contenues dans la loi des finances 2018, mesures jugées antisociales et contre lesquelles la société civile nigérienne appelle elle aussi à manifester pour la 3e fois dimanche prochain à Niamey et dans les grandes villes du pays. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Guinée, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Amadou Salif Kébé, a promis aujourd'hui une publication d'ici la fin de la semaine des résultats du scrutin local de dimanche. Des responsables de l'opposition comme du pouvoir ont évoqué des fraudes lors de ces premières élections locales depuis 2005. La CENI espère proclamer les résultats au plus tard vendredi. En RDC, un colonel déserteur de l'armée congolaise a été extradé depuis la Tanzanie. Le colonel John Chibangu est arrivé lundi à Kinshasa. Les autorités tanzaniennes ont accepté de l'extrader RDC, a déclaré le ministre Alexis Thambwe Mambwa. Il est interrogé par les services de renseignement après avoir menacé de chasser le président Joseph Kabila du pouvoir. Toujours en RDC, une messe sera célébrée ce vendredi à Kinshasa, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, à la mémoire des victimes de la marche pacifique du 21 janvier. Dans un communiqué, le comité laïque de coordination dit vouloir honorer les martyrs et refuser la persécution des chrétiens. Ce comité catholique est à l'origine des marches contre le maintien au pouvoir du président congolais Joseph Kabila, durant lesquelles au moins 6 personnes avaient été tuées. Au Kenya, Esmond Martin, un expert international du trafic d'ivoire, a été tué à son domicile à Nairobi. L'auteur de nombreux rapports luttant contre le braconnage des éléphants a été poignardé au cou. Une enquête a été ouverte et 4 personnes ont été arrêtées. Esmond Martin avait travaillé sur le commerce illégal d'ivoire en Asie, notamment en Chine, à Hong Kong, au Vietnam et au Laos. En Afrique du Sud, la direction de l'ANC se penche sur un éventuel départ anticipé du président Jacob Zuma. Il doit s'adresser jeudi devant le Parlement pour son discours annuel sur l'état de la nation. Eric Manirakisa.
Les partisans du nouveau chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, font tout pour empêcher Jacob Zuma de prononcer son discours jeudi. En revanche, les alliés de M. Zuma estiment qu'il doit terminer son mandat qui expire en 2019. Pour trancher, le comité de travail de l'ANC composé de 26 membres est en conclave, mais cette instance dirigeante n'a pas le pouvoir de le destituer. Elle doit se référer au comité exécutif national. D'après le numéro 3 du parti Guédé Mantaché, l'exécutif de l'ANC a rencontré hier soir le président Zuma à Pretoria pour parler de ce qui est dans le meilleur intérêt de l'ANC et du pays. Monsieur Zuma a refusé de démissionner, selon un membre de l'ANC très bien informé des débats internes. Les pro et anti-Zuma ont manifesté aujourd'hui devant le siège de l'ANC à Johannesburg. Au Parlement, les députés de l'opposition ont déposé une nouvelle motion de défiance qui sera soumise au vote le 22 février.
Afrique du Sud toujours, les autorités de la ville du Cap, victimes d'une sécheresse qui menace la distribution en eau potable, ont annoncé avoir reculé d'un mois au 11 mai le très redouté jour zéro où les robinets pourraient être à sec. Ian Nelson, le maire de la seconde ville du pays, s'est réjoui de la nouvelle en affirmant que c'est les agriculteurs qui avaient réduit leur consommation. Et puis cette forte irritation de la Tunisie après avoir été inscrite en janvier dans la liste des paradis fiscaux par l'Union européenne. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a demandé à Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, des signaux forts pour soutenir la transition démocratique et notamment une meilleure ouverture du marché européen pour sa production d'huile d'olive. La Tunisie est le second producteur mondial d'huile d'olive après l'Espagne et l'Union européenne est son principal débouché pour ses exportations.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, au moins 23 civils, dont 4 enfants, ont été tués lundi dans des raids aériens du régime visant plusieurs localités de la Ghouta orientale, région rebelle à l'est de Damas. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le point avec Salwa Jaafari.
Les images diffusées ce matin par le groupe des casques blancs sont choquantes. On y voit une opération de sauvetage d'un bébé extirpé des décombres. Beaucoup n'ont pas eu la même chance. Les jets russes ont intensifié leur bombardement sur les villes tenues par les rebelles. La veille, ces derniers avaient abattu un avion de guerre russe et tué son pilote. Les frappes les plus meurtrières ont visé la localité de Beit Sawa, où 9 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le régime du président Bachar al-Assad bombarde quasi quotidiennement la route orientale. À Sarakeb, dans le nord-ouest du pays, 5 personnes ont été traitées pour asphyxie.
Après 10 minutes, nous avons commencé à étouffer. Certains ont commencé à vomir et d'autres criaient. Ensuite, l'équipe de la protection civile nous a sauvés et nous a conduits à l'hôpital.
Assiégés depuis 2013 par les forces du régime, les quelques 400 000 habitants de cette zone rebelle vivent déjà une grave crise humanitaire avec des pénuries de nourriture et de médicaments.
Ici à Washington, l'espoir d'un compromis sur l'immigration s'amenuise au Congrès américain. Le gouvernement n'aura plus d'argent jeudi soir et l'impasse budgétaire se poursuit au Congrès entre la majorité républicaine et l'opposition démocrate qui ne parviennent pas à s'accorder pour régulariser des millions de clandestins. Le président Donald Trump cherche un compromis avec les démocrates depuis septembre dernier quand il a abrogé le programme créé par son prédécesseur Barack Obama, le programme DACA, qui a permis d'accorder des papiers temporaires à 690 000 jeunes sans papiers. En Israël, un Israélien a été mortellement poignardé par un Palestinien près d'une colonie de Cisjordanie occupée dans ce que la police israélienne a qualifié d'acte terroriste. Et puis en Belgique, le procès de Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant des commandos djihadistes des attentats en France du 13 novembre 2015, a été suspendu jusqu'à jeudi. Il est également accusé d'avoir tiré sur des policiers à Bruxelles en mars 2016. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La RDC a réduit à 4 les vols de Brussels Airlines vers Kinshasa. La mesure entre en vigueur aujourd'hui. Jusque-là, la compagnie belge effectuait 7 vols par semaine. L'autorité de l'aviation civile à Kinshasa déplore l'absence de réciprocité dans l'exploitation des services aériens entre la RDC et la Belgique. Récemment, Kinshasa a aussi signifié à Bruxelles la fermeture de son agence de développement Inabel et celle de la Maison Schengen, le consulat de l'Union européenne en RDC géré par la Belgique. Au Nigeria, le plus grand syndicat du port d'Apapa menace de bloquer tout accès des marchandises dans le pays. Il exige la réparation de la route qui mène au port devenu impraticable, paradis des criminels. Pour contourner ces problèmes de sécurité et logistique, les importateurs utilisent le port de Cotonou au Bénin voisin. La directrice générale des autorités portuaires du Nigeria a estimé qu'il faut développer de nouveaux moyens de transport, des trains et des voies fluviales. En Afrique du Sud, la population de la mégapole du Cap fait face à la pénurie d'eau potable avec un risque de coupure de l'eau des robinets pour cause de sécheresse. Cette situation a provoqué l'épidémie de listériose et une forte hausse des cas de typhoïde dans la ville.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Le Maroc remporte à domicile le CHAN 2018.
Et avec la manière devant son public et les 45 000 spectateurs de Casablanca, le Maroc a clôturé le championnat d'Afrique des Nations de football 2018, comme il l'avait ouvert, par un beau festival offensif. Une victoire 4-0 face au Nigeria. Et dans la petite finale, samedi, comme en 2011, le Soudan monte sur la troisième marche du podium en s'imposant à Marrakech au tir au but face à la Libye, sacrée en 2014. Les focaux de Djedian, qui avaient ouvert le score en début de match avant de se faire rejoindre par les Libyens dans les dernières minutes, ont été les plus adroits au pénalty. 4 tirs au but à 2.
En Europe, les buteurs africains sont en forme.
Inarrêtable Mohamed Salah, le virevoltant pharaon est toujours aussi décisif pour Liverpool, à l'image du doublé inscrit contre Tottenham, match nul de but partout, dans l'un des chocs entre deux prétendants à la Première Ligue. Ce doublé lui permet de revenir à une longueur de son adversaire du jour, Harry Kane, meilleur buteur du championnat avec 22 buts. Début réussi aussi pour Aubameyang à Arsenal, le Gabonais, arrivé pour 63 millions d'euros en provenance de Dortmund, a livré une excellente prestation contre Everton, victoire 5-1. Aubameyang qui ouvre son compteur personnel d'une jolie pichenette. Aubameyang parti en Allemagne, c'est Salomon Kalou qui enfile les habits de buteur africain prolifique. L'Ivoirien de 32 ans a permis au Hertha Berlin d'arracher le match nul contre Hoffenheim, un but partout. Il s'agit du 8e but de la saison pour Salomon Kalou.
Quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Et oui, Boston, leader de la conférence Est, s'est imposé sur le fil dimanche contre Portland, 97-96, grâce à un panier à la dernière seconde du pivot Al Horford, tandis qu'Oklahoma City a été surpris par les Lakers de Los Angeles, une défaite 104-108. Toronto, facile vainqueur de Memphis, 101-86.
Et bien sûr, l'événement de la nuit aux États-Unis, c'était le 52e Super Bowl en football américain.
Et bien, ce sont les Eagles de Philadelphie qui ont créé l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la NFL en s'imposant dimanche lors du 52e Super Bowl, 41-33. Ils battent les New England Patriots, évidemment, de Tom Brady, au terme d'un match excellent de bout en bout.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Deuxième semaine de grève générale illimitée dans le secteur public au Tchad. Les travailleurs protestent à travers ce débrayage contre la réduction drastique de leur salaire. Le collectif des fédérations syndicales du secteur privé et parapublic vient d'entrer dans la danse, appelant ses militants à observer 2 jours de grève de solidarité à partir de ce lundi 5 février 2018. André Kodmadjingar, notre correspondant, nous fait le point de N'Djamena.
Ces 2 jours de grève visent non seulement à soutenir les travailleurs touchés par la réduction des salaires, mais aussi un signal fort contre le taux excessif des impôts sur les revenus des personnes physiques prévus dans la loi des finances 2018. Les activités dans la ville de N'Djamena tournent au ralenti. Pas d'engouement devant les sociétés de téléphonie mobile et les banques de la place qui, d'habitude, grouillaient de monde. Sauf les guichets automatiques fonctionnent. Quelques clients rencontrés devant les banques se bousculent pour exprimer leur mécontentement dans le micro de VOA Afrique.
Dans la main. Il faudrait effectivement que le gouvernement là, comprenne que le peuple est en train de souffrir.
J'ai des urgences, je suis venu chercher un peu de sous. J'ai maintenant la banque est fermée. Depuis 2014 à 2017, le gouvernement s'est endetté à plus de 800 milliards. Mais 2014 à 2015, nous n'avons pas encore de crise. Et ils ont pris ces bons-là, ils ont fait quoi avec?
Pour nous, clients, ça pèse sur nous parce que moi, je quitte Moudou, je voulais repartir. Ce système m'a bloqué.
Le président de la commission formation et communication du Conseil national du patronat tchadien trouve cette grève légitime. Mahamat Tayer Kirela.
Le droit de grève étant reconnu à ceux-ci par une loi, nous, employeurs, nous prenons acte de cet état d'âme. Ils ont réagi parce que déjà il y a une loi et nul n'est censé l'ignorer. C'est l'extérieur qui nous dit qu'il faut 30 milliards et il faut taper sur les employés pour prendre 30 milliards. C'est très douloureux.
Vu la détermination des travailleurs d'aller jusqu'au bout de leurs revendications, le gouvernement menace déjà de sanctionner les grévistes. Mahamat Mokhtar Ali, ministre de la fonction publique.
La grève, moyen légal reconnu aux travailleurs, peut réduire drastiquement les capacités productrices d'une administration lorsqu'elle est déclenchée sans limite et sans contrôle. Dans tous les cas, le décret 687 sera appliqué, ainsi que la loi 32 aux agents publics absents de leur poste de travail.
Des menaces qui n'entament rien, la détermination des travailleurs, déclare le porte-parole de la plateforme syndicale revendicative, Barka Michel.
C'est une agression contre les travailleurs lorsqu'il dit qu'il faut leur appliquer la loi 32. Une loi que nous avons attaquée au niveau du Bureau international du travail et le Premier ministre et son gouvernement ont accepté de faire une relecture de cette loi. Nous, on est dans une grève illimitée. Hein. Il peut ne pas payer le salaire pendant 10 mois. Ça lui fera une plus grosse économie.
Les médecins qui acceptent le principe de service minimum dans les hôpitaux pour une durée d'une semaine, conformément à la recommandation de la plateforme syndicale revendicative, menacent déjà d'aller en grève sèche après le 6 février si aucune solution n'est trouvée. André Kodmadjingar N'Djamena, VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les violences communautaires opposant les Hema au Lendu continuent de faire des morts en Ituri. Les Hema affirment qu'au moins 23 membres de leur ethnie ont été massacrés depuis vendredi et des centaines de maisons incendiées. Par ailleurs, les autorités font état d'une dizaine de combattants Lendu tués. Pour parler de ce conflit et de ses origines, Morgan Guériec a joint Nikèze Kilbeloka, directeur du journal Les Coulisses.
Les Hema ont attaqué, les Lendu ont répliqué, mais ils se sont battus entre les deux communautés.
Qu'est-ce qui oppose ces deux communautés?
Les deux communautés ont vécu et vivent ensemble. Le problème part d'abord des revendications des terres. De façon générale, les Lendu pensent qu'ils ont été dépossédés par les Hema.
Les Hema sont des éleveurs et les Lendu sont des agriculteurs.
Effectivement, vous savez, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, c'est des conflits récurrents. Il suffit que la vache de l'éleveur brouter dans le champ des cultivateurs, ça pose des problèmes. Donc on ne peut pas parler à ce niveau d'une résurgence des conflits. Le conflit est latent, le conflit vit avec toutes les deux communautés.
Alors des analystes avancent aussi que cette hostilité remonte à la période coloniale.
Il y a une thèse laissée par des colons comme quoi les Lendu étaient un être inférieur, apte aux travaux manuels. Par contre, les Hema, c'était un être civilisé qui pouvait mieux comprendre la science. Il s'est créé un clivage où vous avez une majorité des EMA qui ont étudié par rapport à une minorité.
Ce conflit entre EMA et l'Hindou ne date pas d'hier. En 2003, il avait déclenché l'intervention de la force militaire européenne Artemis. Pourriez-vous nous rappeler ce qui s'était passé à l'époque ?
Les hommes d'affaires EMA ont chassé les Hindous sur les terres que les Hindous considéraient comme les leurs depuis l'époque coloniale. Les EMA ont utilisé l'armée ougandaise et qui a agi contre les Hindous. Et les Hindous se sont vengés en brûlant presque 350 pieds de café des EMA, détruisant des maisons. Voilà l'élément déclencheur.
Et qu'avait permis l'intervention européenne Artemis ?
Il y avait une disproportion de forces parce que les Hindous attaquaient la nuit, avaient des machettes, des flèches. Et comme les EMA étaient soutenus par l'Ouganda, bon, il y a eu au bas mot 50 000 morts, ce qui a fait que Artemis, la force française, est venue déblayer les terrains pour permettre à l'actuel MONUSCO de s'asseoir un peu pour amener la paix.
La situation pourrait revenir à ce niveau de tension aujourd'hui ?
L'avantage qu'il y a à Ituri, c'est que quand les communautés sont en conflit, il y a des notables. Les sages, chaque communauté appelle ses enfants au calme et finalement ils se retrouvent pour résoudre les problèmes assez pacifiquement. Donc je ne pense pas que ça va prendre l'ampleur de 1999 à 2002.
C'était Nikez Kibel-Beloka qui est notamment l'auteur d'un livre sur le sujet, Ituri, de la guerre identitaire au pillage des mines d'or de Kilomoto par des multinationales anglo-saxonnes.
Ce soir, dans À votre avis, gros plan sur l'éducation des filles en Afrique. En marge du dernier sommet de l'Union africaine, il a été demandé aux États membres d'investir plus dans l'éducation des filles. La question a également été soulevée lors de la conférence sur le partenariat mondial pour l'éducation à Dakar. Quels sont les obstacles? Comment les surmonter? Vos réactions ce soir, dans À votre avis, Morgane Guerriec en votre compagnie, réagissant en direct à 18h temps universel en appelant le 001-202-05-26-33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons. À ce soir.
La piraterie maritime s'intensifie dans le golfe de Guinée. Un pétrolier de Hong Kong avec un équipage indien de 22 membres est porté disparu depuis dimanche. Avant sa disparition, le MT Marine Express mouillait dans le port de Cotonou au Bénin et transportait 13 500 tonnes de pétrole. C'est le deuxième bateau à disparaître dans cette région depuis le mois passé. Raïssa Girondin a joint Omar Haruna, directeur de l'US African Cyber Security Group et ancien ambassadeur du Bénin à Washington.
Oui, en effet, il faut dire que cet événement n'est pas singulier, hein, parce que déjà en janvier, il y a un autre navire qui a été pris au fait dans les mêmes environs au large des côtes du Bénin. Et les membres d'équipage en majorité étaient indiens et ont été relâchés 6 jours plus tard. Donc ça devient de plus en plus coutumier et je crois qu'il faut que nos autorités, pas seulement les autorités béninoises, mais les autorités de toute la région prennent ce danger très au sérieux.
On se souvient de la piraterie au long de la Somalie dans l'océan Indien qui a complètement disparu, mais la menace, elle s'est déplacée dans le golfe de Guinée. Est-ce qu'il y a une urgence dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime dans la région ?
Oui, il y a une urgence et il faut dire que dans le golfe d'Aden, des mesures ont été prises et ce qui a complètement dissuadé les pirates et ce qui ne se fait pas dans le golfe de Guinée. Pour moi, il y a déjà un manque de moyens criards au niveau du golfe de Guinée. Il faut que nos gouvernements mutualisent leurs ressources. Il faut surtout aussi que les lois soient harmonisées et que l'aspect répressif des lois soit clair parce que les lois sont hétérogènes en ce moment dans le cadre de la piraterie maritime au niveau de nos institutions en Afrique.
Donc selon vous, il pourrait y avoir une solution commune africaine pour mener à bien cette lutte ?
Il doit y avoir une solution commune. Et dans ce sens déjà, il y a des programmes qui étaient en place. Par exemple, au niveau entre le Nigeria et le Bénin, il y a ce qu'ils appellent un projet de prospérité dans le golfe de Guinée qui, au fait, permettait au Nigeria et au Bénin de mettre ensemble leurs ressources contre la piraterie. Mais aussi, on a besoin de l'appui des partenaires étrangers. Parce que vous savez, le Golfe de Guinée est ce qu'on appelle en anglais « high traffic ». Et si vous vous rendez compte que à peu près 25% du pétrole vers l'Amérique du Nord vient de cette région, il faut essentiellement qu'il y ait un partenariat entre ces pays et les États-Unis. Mais aussi la France, je sais que la France avait un dispositif dans la région qu'ils ont appelé « Corimb » et qui s'occupait des intérêts de la France parce que effectivement ils ont des intérêts dans cette zone-là quand il s'agit du pétrole.
Oui, à côté de la piraterie, il y a l'émergence d'un trafic en tout genre. Les côtes africaines sont littéralement pillées par des pays qu'on connaît qui viennent se servir dans ces eaux. C'est un vrai problème selon vous ?
C'est un problème parce que ça va tuer déjà le commerce océanique dans la région. Et le Nigeria a une grande responsabilité parce que quand les pirates vont sur les bateaux, c'est pour siphonner au fait le pétrole qui sort des puits nigériens. C'est important que ces pays-là prennent leurs responsabilités d'abord, mais surtout que nos pays africains prennent la mesure de la situation.
Omar Haruna, directeur de l'US Africa Cyber Security Group et ancien ambassadeur du Bénin à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Faisons à présent un tour au zoo d'Abidjan, un parc qui n'avait pas été épargné par la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Comment se porte aujourd'hui ce zoo ? État de santé dans ce reportage du correspondant de VOA Afrique sur place, Georges Ibrahim Tunkara.
Le zoo national d'Abidjan, un parc qui renaît de ses cendres. La crise post-électorale de 2010 et 2011 est passée par là. Le zoo, une victime collatérale de cette crise. Des animaux sont morts ici de faim quand les armes crépitaient en 2011 aux quatre coins d'Abidjan. Docteur Kané Samouka est le directeur des lieux depuis 2014.
Pendant la crise, il y a beaucoup d'animaux qui sont morts, puisque si vous savez que les hommes se disputaient les dernières baguettes de pain dans les boutiques, et il n'y avait pas de manger non plus pour les animaux. Surtout les carnivores, les derniers lions du zoo sont morts dans les années 2010-2011.
Plus de 600 millions de francs CFA, c'est ce que le gouvernement ivoirien a injecté en 2013 et 2014 dans la réhabilitation du zoo et l'importation de certaines espèces animales, comme le lion qui rugit désormais dans le parc.
Le gouvernement a fait un effort financier particulier en débloquant 613 millions de francs CFA dans le zoo. Les infrastructures réhabilitées, il y avait les bâtiments à usage de bureaux, et les enclos, les bassins, les cages des animaux qui ont été réhabilités pour la plupart. Et on a donc renforcé les effectifs animaux en important donc trois lions, un mâle, deux femelles de l'Afrique du Sud en 2015.
Depuis quelques mois, le zoo d'Abidjan est devenu plus attractif et les visiteurs ne boudent pas leur plaisir.
Nous sommes venus voir un peu les animaux. Ça fait au moins plus de deux fois que nous venons ici. Et c'est vraiment un plaisir de venir voir un peu les animaux que nous n'avons pas l'habitude de voir, de rencontrer dans la vie courante. Et vraiment, ça fait plaisir. On a vu un peu les lions, les zèbres, l'autruche, les babouins et les gorilles.
Lions, panthères, chimpanzés, éléphants et cette tortue de 118 ans, autant d'espèces animales que l'on peut trouver dans ce zoo qui ambitionne de devenir l'un des plus grands sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Sims Loumami, à la console Joe Gill, au micro Clermont Rajibour. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com bien sûr, sans oublier notre page Facebook. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique.